Fidèles auditeurs, c'est parti pour la deuxième tranche d'Okapi Service de ce jour. Nous allons parler tout à l'heure de l'impunité dans les domaines des violences sexuelles. Qu'est dit la loi à propos de l'impunité? Eh bien, Maître Rufin Louco, juriste et chercheur en droit, sera notre invité tout à l'heure. Des questions et préoccupations, le standard est ouvert. Composez le 081 890 63 94. Écrivez-nous également à service@radiookapi.net. Tati Mapoukou assure la réalisation de cette émission. Mimi Kindou est à la mise en onde au micro. C'est Jody Daniel Kachama sous la supervision de Jean-Marc Matouaki. Excellente condition d'écoute de cette deuxième partie du magazine Okapi Service.
Ngoma ya Kwetu. Une vitrine de la musique traditionnelle folklorique du patrimoine sur Radio Okapi, la radio de toutes les musiques. Prenez rendez-vous tous les mardis et mercredis à 15h30, heure de Kinshasa. La culture, c'est tout ce qui nous reste quand on a tout perdu.
Que dit la loi à propos de l'impunité dans le domaine des violences sexuelles? À RDC, certains auteurs des violences sexuelles ne répondent pas de leurs actes devant la justice. Ils utilisent l'argent, le trafic d'influence, ainsi que d'autres subterfuges pour faire taire l'affaire ou régler le problème à l'amiable avec la victime du viol ou sa famille. Par ailleurs, certaines victimes des violences sexuelles restent longtemps, gardent silence autour de cette affaire. Elles ont du mal à dénoncer leurs bourreaux. Eh bien, d'après les experts, cela contribue à l'entretien de l'impunité dans ce domaine. Alors, qu'est dit la loi congolaise à propos de l'impunité dans les domaines des violences sexuelles? On en parle tout à l'heure avec Maître Rufin Louko Moussoubao. Il est chercheur, juriste et chercheur en droit. Nous avons en ligne Maître Edmond Mbokolo, avocat au barreau de l'Équateur, assistant à l'université de Mbandaka. Maître Edmond Mbokolo, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour à l'invité et également à tous les auditeurs de la fréquence de la paix.
Bien. Qu'est-ce que vous avez à nous dire par rapport à l'impunité en ce qui concerne les violences sexuelles?
Ben, merci beaucoup. D'entrée de jeu, je voudrais souligner que notre pays a de textes juridiques, en tout cas qui répriment les actes de violence sexuelle. Donc nous avons le code pénal de 1940 qui a subi une modification en 2006. Et dans cette loi, la loi a prévu en tout cas les infractions qui peuvent être mises en charge des personnes qui comme femme victime ou comme un garçon victime. Bon, je voudrais ici dire que par rapport à l'impunité, ce qui pose le problème dans notre pays, c'est d'abord le problème qui se pose au niveau de chaque famille. Donc il y a certaines familles, entre guillemets, qu'on appelle les familles démunies ou des familles pauvres, oui, qui ne parviennent pas à pouvoir dénoncer les bourreaux qui commettent les infractions. Et puis, l'autre problème, c'est le problème des immunités des poursuites. Certains dignitaires, donc les personnes qui ont des privilèges de poursuite, en tout cas, sont des gens qui sont protégés. Et lorsqu'ils commettent des infractions de violences sexuelles, pour les poursuivre, ça pose un problème parce qu'il faut lever les immunités, il faut lever l'inviolabilité, et ça pose également un problème.
Maintenant, pourquoi certaines familles qui n'ont pas de moyens ne peuvent pas dénoncer parce qu'elles n'ont pas l'argent pour suivre la procédure à la justice pour financer la procédure judiciaire?
Oui, la plupart des cas de violence sexuelle, la plupart des cas sont commis par des personnes qui sont munies de moyens. Et lorsqu'il y a un cas de violence sexuelle comme ça, vous allez voir comment la famille se mobilise, soit pour avoir une parcelle, soit c'est pour avoir une enveloppe. Ce qui fait que, en tout cas, au niveau de la justice, les parquets ne parviennent pas vraiment à pouvoir recevoir les cas de violences sexuelles. Et aussi, il faut aussi souligner que, même au niveau de la justice, au niveau du parquet ou au niveau du tribunal, il y a toujours certaines transactions, bien sûr, illégales, qui ne sont pas prévues par la loi, mais il y a certaines transactions qui se font où le bourreau se convient avec la famille de la victime pour étouffer les dossiers. Voilà. Mais je voudrais aussi souligner que, en tout cas, nous avons une législation cette matière. Nous avons la loi de la loi de la loi. Ni les viols, l'attentat lapidaire, harcèlement, il y a des grossesses forcées et il y a toute une litanie. Donc nous avons l'attentat lapidaire, les viols et plus de 14 formes de violences sexuelles. Et avec des peines vraiment colossales, des peines qui peuvent faire en sorte que cette, moi j'appelle ça une pandémie, puisse être quand même anéantie. Mais les problèmes sont au niveau de la population qui ne parvient pas à dénoncer. Les problèmes sont au niveau de la justice qui ne parvient pas effectivement à réprimer les bourreaux, surtout les bureaux qui ont quand même les bourreaux qui ont une qualité officielle élevée, alors que selon la loi de 2006,
et pourquoi la justice n'arrive pas, pourquoi la justice n'arrive pas à réprimer, c'est parce que la justice aussi est quelque part achetée par ces gens-là qui ont de moyens.
Exactement. Pourquoi l'État, nous les payons toujours de pouvoir accentuer cette notion de l'État de droit. La justice n'est pas tout à fait efficace parce que dans les cas de violence sexuelle, lorsque on arrête un bourreau, un infracteur, un violeur, c'est une personne qui doit être jugée et qui doit être punie afin d'être jetée dans un géol et purger la peine. Mais ce qui se passe au niveau de la justice, des fois, vous allez voir qu'aujourd'hui, une personne est poursuivie et il y a même des preuves. Et après, demain, vous voyez la personne qui en est à la cité, ça donne une certaine frustration. Ce qui fait en sorte qu'aujourd'hui, la population n'a plus confiance à la justice. Et lorsqu'il y a un cas de viol, les personnes essayent de négocier au niveau de la cité au détriment de la justice. Parce que, il faut qu'on se le dise, l'infraction, c'est l'affaire de l'État, ce n'est pas l'affaire des privés.
Bien, merci Maître Edmond Bokolo, depuis avocat au barreau de l'Équateur, en Mbandaka. Nous allons accueillir à présent notre invité, Maître Rufin Loko Moussoubao, juriste et chercheur en droit. Maître Rufin, bonjour.
Bonjour aujourd'hui, bonjour à tous nos auditeurs.
Bienvenue dans cette émission, nous parlons de l'impunité. Que dit la loi à propos de l'impunité dans les domaines des violences sexuelles? On a dit tout à l'heure que certains auteurs de violences sexuelles ne répondent pas de leurs actes devant la justice. Ils utilisent l'argent, les trafics d'influence, et d'autres ont des immunités parlementaires. On ne sait pas les poursuivre, ou soit les familles pauvres bien préfèrent gérer et régler l'affaire à l'amiable. On vous donne des parcelles, on donne l'argent et on tait l'affaire. Maître Dufin, qu'est-ce qui, d'après vous, qu'est-ce qu'est la loi à propos de l'impunité ce secteur?
Merci pour avoir choisi ce thème ici, que nous puissions renouer avec nos auditeurs par rapport à une problématique essentielle et vitale pour la République. Parce que tout simplement, les violences sexuelles ont été donc la dernière donne qui a permis que notre pays encore soit hissé au diapason, n'est-ce pas, de pays qui ont été victimes de la violation des droits humains, en particulier en ce qui concerne les droits de la femme et les droits des enfants. Et donc, vous vous rappelez, lorsque la communauté internationale, une certaine presse, nous a qualifié de la capitale mondiale du viol. Donc, le viol étant la fille aînée des violences sexuelles, le viol. Alors, pourquoi il n'y a pas suffisamment? Selon les statistiques que nous avons, c'est sur l'ensemble des violences sexuelles qui ont commencé depuis les années 93 jusqu'à nos jours, c'est moins de 12% qui a été réprimé par la justice, donc sanctionné.
Moins de 12%.
Vous voyez? Et sur les 12% qui ont été réprimés, tenez, plusieurs hommes en uniforme ont été sanctionnés par notre justice militaire du Sud Kivu, du Nord Kivu, de l'Ituri et nos cours militaires opérationnels donc, qui ont accompagné la justice, qui a accompagné les troupes pendant la campagne militaire. Mmh. On appelle ça cours militaire opérationnel. Tous ces gens-là qui ont été condamnés ont été ensuite galonnés. Ils ont des grades et ils sont dans l'armée. Après avoir été condamnés. Vous voyez, par notre justice militaire.
Mmh. Et donc, tous ces violeurs là.
Nous sommes là, tous ces violeurs. Ils sont des commandants, telle unité, telle autre brigade, telle autre compagnie. Ils sont là, en train de se la coule douce au sein de nos unités, alors qu'ils ont été déjà condamnés. Donc, sur les 12% des condamnés, il y a parmi eux aussi nombreux qui avaient été condamnés et qui sont aux affaires. Donc, ils n'ont pas purgé leur peine. Donc, qui n'ont pas purgé leur peine, qui ne sont pas en prison.
Donc, aujourd'hui, ils bénéficient d'une certaine immunité.
Et même une gratification. Ils ont reçu un bonus, si ça veut dire, ils ont bien violé. La justice ne représente rien. Ils sont aux affaires.
Pour les récompenser.
Ils sont aux affaires. D'autres sont des députés, d'autres sont des sénateurs, et puis, voilà. D'autres sont devenus même des ministres après avoir violé. Donc, c'est ça l'état de la situation des violences sexuelles en ce qui concerne les Congolais. Et donc, j'estimais
que... Donc, c'est tout ça qui entretient l'impunité.
Évidemment, dans l'ensemble de l'impunité, il y a comme conséquence les violences sexuelles ne finiront pas à l'est du pays ou sur l'étendue du territoire national si l'on ne sanctionne pas. Ce qui tue, ce qui viole, ce qui pille, il y a une sorte de complot international. La CPI ne fait rien. Nous avons eu un auditeur général qui nous a quittés, hélas, qui on lui a reproché par plusieurs organismes nationaux, plusieurs organismes internationaux, qu'il était laxiste par rapport à beaucoup de choses. Et il, en quelque sorte, c'est lui qui protégeait. Là, nous parlons d'un auditeur général, c'est-à-dire le numéro un de la justice militaire, chargé de la répression, et qui, dans plusieurs situations, il était à Beni. On n'a pas vu la répression. Il était au centre, à Kananga. On n'a pas vu la répression. Il est même allé à Yumbi, où il y a eu des violences sexuelles également. On n'a pas vu la
Pourquoi
répression.
Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas eu, on n'a pas dénoncé.
Donc, t'as dit parce qu'on a dénoncé, mais il y a une sorte de couverture de ces bourreaux, voilà, d'être protégés par certaines institutions du pays. Et donc, ça, c'est plus de. Je crois que c'est à cause de cette impunité-là que certaines opinions estimées qu'ils font qu'on réveille Mapping, que le rapport Mapping qui avait identifié des personnes dont auteurs ou présumés auteurs de violences sexuelles, que ces rapports-là soient réveillés en fait qu'il y ait un tribunal pénal
spécial. Qu'on mette en place des chambres spécialisées.
Spécialisées, et en particulier un tribunal pénal spécial sur la RDC ou sur la région des Grands Lacs. Mmh. Il faut que ça soit comme ça a été au Sierra Leone, comme ça a été en Yougoslavie, avec un tribunal pénal spécial qui avait condamné en Sierra Leone Charles, l'ancien président. Mmh.
Charles Taylor,
c'est qui a condamné, n'est-ce pas, en Yougoslavie, l'ancien président, Milosevic, Slobodan Milosevic.
Oui.
Donc, pourquoi au Congo, il n'y a pas, donc, pourquoi moins de 12% de tous ces auteurs et qui circulent? Nombreux ne sont pas décédés, nombreux sont sur le territoire national.
Pour, et les, nombreux pour les tribunaux pénaux internationaux, il n'y a pas que les violences sexuelles, il y a les crimes contre l'humanité.
Voilà, pour le tribunal pénal spécial ou tribunal pénal international, ce sont les crimes graves qu'on appelle les crimes internationaux. Mmh. Et ils sont principalement au nombre de quatre. Il y a les crimes de guerre qui sont commis par viol, notamment par viol, il y a les crimes contre l'humanité, il y a les crimes de génocide. Tous les trois ici sont commis par violence sexuelle notamment. Ils peuvent être commis ces crimes ici par massacre, par tuerie, par meurtre, mais aussi par violence sexuelle. Alors c'est pourquoi donc la CPI est intéressée et concernée par, et la CPI aucune action par rapport. En tout cas, je parle de Kivu, aucune action. Ce qui s'est passé en ce qui concerne les Katanga et les autres, c'était des crimes de guerre, principalement pour massacre et recrutement d'enfants. Mais en ce qui concerne les violences sexuelles, l'impunité encore, la sécurité sociale de tous ces bourreaux, de tous ces criminels, avec la bonification du pouvoir qu'ils ont reçu.
Bien, on va accueillir deux auditeurs, Serge de Kamina et Kachai de Kanyoka, qui dit la loi à propos de l'impunité dans les domaines des violences sexuelles. Des questions et préoccupations, composez le 081 890 63 94.
De Goma, Goma Tadi, Okanaga, Kisangani, Okapispo, Ouagadougou, Okapispo, Okapispo, Rabukavu, Okapispo, 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 partie interactive.
Que dit la loi à propos de l'impunité dans les domaines des violences sexuelles? Serge de Kamina, bonjour. Serge, vous êtes à Kamina, bonjour.
Bonjour, Jody.
Quelle est votre préoccupation, Serge?
Ok, j'avais une préoccupation, peut-être je voulais ouvrir seulement la parenthèse. De ce point-là, c'est un problème qu'il faut encore beaucoup traiter avec sérénité. Il y a même un monsieur qui était condamné ici pour violence sexuelle, là, il était amené à Lubumbashi, où il coopérait avec les gens là commis à la prison pour opérer et tuer les gens la nuit. Il faisait les mêmes histoires, je pense qu'il est maintenant transféré à Nguendala. Enfin, si les gens ont jugé bon de traiter en amiable, là, bon, on peut écarter ces problèmes. Mais les problèmes restent encore à la justice. Vous trouvez même quelqu'un des droits de l'homme qui vient se situer en magistrat, puisqu'il est ami des magistrats d'un juge. Il va dire non, c'est un mineur, ce monsieur-là prenait ce dossier, nous allons traiter en amiable, pour même commencer à intimider l'OPJ ou soit les magistrats. C'est là où j'ai trouvé bizarre encore notre justice. Si jamais on dénonçait, on peut peut-être commencer à vous poursuivre avec des petits problèmes, et ce sont les gens qui ne sont pas encore conscients. Moi, ce que je voudrais, à mon humble avis, est-ce que si je dénonçais cela, on peut sécuriser ma vie pour que je sois comme j'ai toujours été. Puisque ici, quand vous parlez seulement la vérité, vous devenez un obstacle, on va vous chercher là où vous êtes
pour vous nuire. D'accord.
Voilà, c'est ce que j'avais comme une petite proposition.
Merci. Kachai, vous êtes à Kanyuka. Bonjour.
Bonjour, monsieur Jody Daniel Kachama, et bonjour à l'invité.
On vous écoute, Kachai.
Merci beaucoup, monsieur Jody. Vous savez, monsieur Jody, des sujets pareils froissent la conscience et les nerfs sont tendus. Nos cœurs sont hébétés quand nous suivons ces sujets. Pourquoi ? Parce que dans la pratique, nous vivons autre chose. Les juridictions sont installées pour connaître ces infractions et décourager les criminels. Mais dès lors que les criminels ne sont pas découragés, ils continuent à commettre leurs sales besognes. En tout cas, ça nous donne un dégoût et ça discrédite les autorités qui nous dirigent. Monsieur Jody, nous sommes ici au Kasaï central, à Kanyuka par exemple. Un monitoring a été mené avec le PNUD pour circuler dans tous les territoires qui composent le Kasaï central. Qu'est-ce que nous avons constaté dans ces territoires-là, monsieur Jody? Il n'y a même pas de parquet. Et là où il y a des parquets secondaires, il n'y a pas de registre d'enregistrement des cas. Et là où il y a même des registres, il n'y a pas de cas de violence sexuelle. Quand vous demandez pourquoi il n'y en a pas, on vous dit que quand on arrête quelqu'un, par exemple, en Bemba, dans le secteur de Lombelo, on ne sait pas l'amener jusqu'ici, au chef-lieu du territoire, pour l'acheminer à Kananga, car il n'y a pas des engins pouvant faciliter le transport. Et en même temps, il y a des transactions qui s'opèrent entre les policiers qui sont commis à l'arrestation des bourreaux et les bourreaux eux-mêmes. Ça décourage. De ceux qui sont même arrêtés là, quand ils arrivent devant les autorités judiciaires, monsieur Jody, c'est, bon, je m'excuse pour le terme, du n'importe quoi. En matière de violences sexuelles, il n'y a pas de transactions. On ne peut, ce sont d'ailleurs des infractions imprescriptibles. Mais qu'est-ce qui se passe?
Il y a des arrangements, les gens font des arrangements à l'amiable et puis on laisse tomber.
Des arrangements à l'amiable. Ceux-là qui sont condamnés sont les vulnérables. Les paisibles citoyens qui n'ont pas même la possibilité financière pour donner aux autorités judiciaires.
Mais d'accord, mais ceux qui ont des moyens, on peut les arrêter aujourd'hui, le lendemain, ils se retrouvent, ils sont déjà sortis.
Bien. D'ailleurs, on ne l'arrête pas. On ne l'arrête pas, il est là, il circule tout bonnement.
D'accord.
Et il vient en justice quand il a...
Quand il veut.
Maintenant, qu'est-ce qui se passe, monsieur Jody? Dans les territoires des... Parce qu'actuellement, le cas de violence, l'impunité, c'est surtout dans les territoires de Kazuma, au Kasaï central. Un père peut se permettre de violer ses trois filles. Monsieur Jody, le cas est amené en justice. Vous pouvez poser la question, on en est où? Ça, c'est un problème. Le deuxième, c'est l'absence des magistrats. Ça, c'est un appel pathétique au gouvernement central. Non, trop, c'est trop. Quand vous n'envoyez pas des magistrats dans les provinces, quand vous ne cherchez pas à recruter des magistrats pour lutter contre les violences sexuelles et les crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité, tout ce que vous êtes en train de faire à Kinshasa, c'est de la peine perdue. Envoyez des gens partout, dans les territoires, dans les secteurs, pour que lorsque les juridictions sont animées de leurs animateurs, je parle alors des magistrats, à ce moment-là, nous allons nécessairement lutter contre les violences là, monsieur Jody.
D'accord, donc, merci. Merci Kachai. On va accueillir l'ingénieur Pierre Moussafiri depuis Goma. Ingénieur Moussafiri, bonjour.
Bonjour Jody Daniel Kachama et bonjour à tous.
Quelle est votre question, ingénieur?
Bon, moi, j'aimerais dire ainsi, l'impunité, c'est ce qui cause tout cela, parce que vous allez voir quelqu'un a commis une viol, au lieu qu'il soit traduit par mis en justice pour qu'il soit jugé, quelques jours après, vous allez lui voir en train de figurer pendant qu'il a été condamné pendant 20 ans de prison. Ces 20 ans de prison, c'est 2 mois seulement. Ça devient 2 mois. Et puis vous allez voir la victime. Quand il voit l'autre victime, voit tout ça, il sera découragé. Il sera mis d'arranger cette affaire en amiable, vu que le gouvernement ne punit pas. Tu vas perdre l'argent. Il y a ceux-là qui disent qu'au lieu de perdre l'argent et que la victime et que le malfaiteur a été condamné pendant 20 ans et qu'il soit libéré avant ces 20 ans, au mieux d'arranger les choses en amiable. C'est ça.
Merci. Maître Rufin Loco.
Oui, évidemment, lorsque vous suivez nos auditeurs, vous les trouvez avoir ciblé le centre de la question. Alors, parce qu'il faut que nous leur rappelions que dit la loi. Je suis dans la Constitution ici, article 15 de la Constitution de notre pays. Article 15. Les pouvoirs publics veillent à l'élimination des violences sexuelles. Alinéa 1er. Alinéa 2e. Écoute. Sans préjudice des traités et accords internationaux, toute violence sexuelle faite sur toute personne dans l'intention de déstabiliser, de disloquer une famille et de faire disparaître tout un peuple est érigé en crime contre l'humanité puni par la loi. Ça, c'est notre constitution qui considère donc que ces infractions de violence sexuelle ne doivent pas être, écoutez, je dis, ne doivent pas être qualifiées de simples crimes. Mais des crimes contre l'humanité, ça veut dire imprescriptibles. Ça veut dire les crimes qui pourraient être poursuivis pendant longtemps. Alors, il y a eu 2 lois qui sont intervenues. La loi de 2006 et la loi de 2009. Donc, la loi portant répression des violences sexuelles. Ça, 2006. Et la loi de 2009, la loi portant protection de l'enfant. Ces 2 lois-là ont été conçues principalement pour réprimer toutes sortes de violences sexuelles. Dans la conception de la loi, nous y étions. Nous avions proposé quelque chose d'important que vous avez vu dernièrement, l'ancien ministre de la Justice, Alexis Thambwe Mwamba, avoir invoqué ça en ce qui concerne Diomi Ndongala lorsqu'il était encore en prison à Makala. C'était la peine accessoire aux violences sexuelles. Et il a constaté que les violences sexuelles dans notre pays, depuis les années 90 jusqu'à ces jours, les principaux bourreaux sont les officiels. Les principaux bourreaux, les officiels, soit à l'uniforme, police, armée, rébellion. Là, je parle donc des rébellions hier qui sont devenus officiels aujourd'hui. Oui. Soit députés. Les officiels, députés, ministres et consorts. Rappelez-vous que dans le cadre de mes recherches, je suis parti à Brazzaville, j'ai trouvé des décisions où on avait condamné le premier ministre, j'étais le nom, de Brazzaville, qui a violé une femme dans son bureau à la primature. Vous voyez donc l'incarnation.
Un grand ouvrage
sur les violences sexuelles, n'est-ce pas? Ouais. Que Radio Okapi avait présenté ici. Pour dire tout simplement que les niveaux de cruauté des officiels. Alors nous avons considéré comme stratégie pour décourager les officiels. Il faut qu'il y ait une peine accessoire. Vous avez vu par exemple, en ce qui concerne les procès qui ont eu lieu sur les détournements et la corruption, la loi de 73 dans le code pénal avait prévu que lorsqu'un officiel, un dirigeant est condamné pour corruption et pour détournement, il y a une peine accessoire ou supplémentaire. C'est laquelle? C'est la privation des droits civiques et politiques. Comment vous êtes coupable de corruption et de détournement, vous ne pouvez plus servir l'État, même comme chef de quartier.
Est-ce que la loi a spécifiquement prévu qu'en cas d'impunité, nous nous sommes bâtis
d'abord pour que cette peine accessoire soit intégrée dans la loi. Ça veut dire que les officiels, par exemple un enseignant qui est condamné pour violence sexuelle
sur son
c'est son fini élève. Sa carrière, il ne peut plus servir l'État. Il ne peut plus, donc une peine accessoire qui lui prive des droits de servir l'État. Donc ça dit par exemple un politicien, un maire de la ville, un gouverneur de province, un député, un ministre qui est coupable de violence sexuelle, c'est fini pour lui. On lui condamne en outre. Il ne peut plus servir le public. Oui. Donc, il ne peut plus, comme on avait dit que non, Diomi Ndongala ne doit plus accéder à un périmètre d'une quelconque école. Voilà. Donc, vous êtes coupable de violences sexuelles, eh bien, vous ne pouvez plus accéder même aux endroits qui hébergent des enfants, qui hébergent des filles, qui hébergent des garçons. Parce que tout simplement, tu deviens dangereux. Tu deviens inutile à servir l'État. Ça peut décourager les grands criminels. Alors, lorsque
tu ne peux plus soit postuler ou accéder à un poste de responsabilité.
Si c'est intégré dans la loi, vous verrez que tous les officiels, tous les généraux, colonels et consorts,
qui ont été exposés à ces réflexes sauvages de violence sexuelle, eh bien, vont se rebiffer, vont revenir, vont réfléchir deux, trois fois avant de commettre ces actes. Parce qu'ils savent que, eh bien, la cravate ne va plus te servir à faire ces choses-là. Au contraire, si tu te livres, vous mettez fin à toutes vos ambitions, à toute votre carte. C'est important parce que ça, c'est le résultat des recherches.
Certains parlent des immunités des poursuites.
Mais parce que évidemment, ce sont les bourreaux qui ont, pour la plupart, ils se sont protégés lorsque les lois étaient en train d'être prises.
Oui.
Ils étaient aux affaires. Donc, ils sont visés par une loi pendant qu'ils sont aux affaires. La conséquence, c'est que la loi n'a pas été bien ficelée parce que tout simplement, ils savaient que nous, si on ficelle bien cette loi, le premier à poursuivre sera nous-mêmes, ou serons nous-mêmes.
Alors on doit se protéger.
On doit se protéger et on a mis des immunités. En principe, pour cas de violence sexuelle, la loi doit préciser qu'il n'y a pas d'immunité. Donc, que ça soit le Premier ministre, que ça soit le ministre, les ministres d'État et consorts,
députés,
qui n'y ait pas des immunités. Donc, c'est incompatible, cette infraction, avec toute immunité. Donc, vous êtes poursuivi pour violence sexuelle, eh bien, non seulement il n'y aura pas d'immunité, mais également, vous courez le risque de voir être condamné aux peines accessoires, c'est-à-dire la privation des droits civiques et politiques. Vous ne pouvez plus servir l'État. Vous allez dans le privé. Si le privé a besoin de toi, vous allez servir l'État. Mais l'État, vous ne pouvez plus servir.
C'est fini.
Et vous ne pouvez plus accéder à des endroits qui hébergent des enfants. Mmh. C'est important.
Félix Kouseka Chitenge, vous êtes à Kinshasa. John Lusombo nous appelle depuis Bukavu et l'ingénieur Jussard Muyumba depuis Kalemi, dans les Tanganyika. Félix Kouseka, bonjour.
Bonjour, monsieur Jody.
Quelle est votre préoccupation par rapport à l'impunité dans le domaine des violences sexuelles?
Merci beaucoup, monsieur Jody. Je suis un peu en joie ce matin d'entendre sur les ondes de la radio Okapi débattre sur ces thèmes qui nous font un peu du mal dans le pays, dans les quartiers et partout dans nos villes de la RDC. Moi, je disais, cette loi a été créée peut-être en 2006. D'où on a vu le chef d'État dire « dites non à la barbarie et dites non à la violence ». Mais à notre pays, le volet violence a pris une ampleur que nous n'arrivons pas à maîtriser jusqu'à aujourd'hui. Par exemple, vous verrez un individu au quartier faire une violence, il est directement arrêté et transféré en prison. Mais si c'est le député, le ministre, le colonel, le major, tous les hautes unitaires, là, font ces histoires, ils sont eux protégés. Nous nous demandons, est-ce que le Congo, il y a les intouchables et les touchables, on ne sait pas, on n'arrive pas à comprendre. Pourquoi on ne peut pas créer une loi déviant les immunités de ces gens-là? Parce que les immunités causent aujourd'hui un grand problème dans ce pays. Vous pouvez toucher un sénateur, on vous dirait, il est protégé par les immunités. Un cas récemment, l'ISIEF a contrôlé les histoires, pareil. On veut toucher comme ça, non, il est couvert par l'immunité. Nous nous demandons, l'immunité c'est seulement pour les honorables et pas pour les citoyens congolais. Moi je ne sais pas là où on nous amène nos dirigeants. Maintenant, j'ai une préoccupation à poser à notre invité.
Laquelle?
Oui, je me demandais, est-ce que une fille qui est violée, par exemple, par un garçon, et le garçon est amené en prison, peut être encore une fois reviolée pour une seconde fois? Nous nous demandons, vous verrez que ça devient comme un marché chez le parent. Tu as violé une fille, tu es amené dans une prison, tu as purgé 5 ans, et demain encore, vous verrez, le même parent l'a amené sa fille devant la justice qu'on a violé sa fille.
Vous demandez si ça devient un business. D'accord.
Oui, ça devient un business dans l'État congolais, que les
gens
nous éclaircissent un peu sûr.
Merci, Félix. John Lusombo, vous êtes à Bukavu. Bonjour.
Bonjour, papa journaliste.
Quelle est votre question, John?
Ok, je pense qu'avant de poser la question, j'ai d'abord une petite préoccupation parce que même si une fois on crée une loi ou bien on pratique la loi qui a été créée, c'est nous, la population, qui sommes toujours des victimes parce que toute loi qu'on crée en RDC concerne ce n'est que la population, ne concerne pas les autorités. Parce que si une fois vous regardez très bien, la violence est surtout le domaine ici chez nous en RDC. Si vous regardez très bien, même ici chez nous à Bukavu, on peut prendre un voleur. On le met entre la main de la police qui a fait, peut-être qui a tué, qui a violé, qui a fait ceci, cela. Mais parce qu'il a quelque chose, il va donner quelque chose à l'armée. Et puis
on va le libérer.
oui, oui, on va le libérer. Donc, c'est ça ma préoccupation. Donc, je pense que ça concerne ce n'est pas la population. Donc, c'est là, c'est, comme on dit en Swahili, on ne peut s'en aller à Tanganyika. Hein? Ceux qui n'ont pas des moyens. Mais pour ceux qui ont des moyens, ça, ça ne le concerne pas.
D'accord. Merci. Ingénieur Jussard Mouyumba, vous êtes à Akalemi. Bonjour.
Oui, bonjour Radio Okapi, bonjour à tous les auditeurs de la Radio Okapi.
Quelle est votre question par rapport à l'impunité dans le domaine des violences sexuelles?
Ben, en fait, je n'avais pas totalement une question, c'est juste un commentaire ou une suggestion que j'avais vis-à-vis du sujet qui est à jour aujourd'hui. Mmh. En fait, j'aimerais parler ceci. Le problème là de la révision de la loi vis-à-vis des problèmes de violences qui sont basés qui sont plutôt dans le dans notre pays, c'est un problème qui, soit moi, je qualifie en fait d'une monnaie courante en fait. Pourquoi? Il n'y a pas question de réviser la loi, mais c'est juste que la justice doit se prendre en charge de se savoir qui est-elle en fait et ce qu'elle doit faire au-dessus de ça. Imagine aujourd'hui la plupart des violences qui sont basées dans le pays, on soupçonne toujours avoir des autorités qui sont derrière ces malfaiteurs-là. Alors que le problème qui est à régler, c'est que en cas de ce genre de violence que nous constatons dans le pays, il est question de lorsqu'on a un acteur qui est à la base de cet acte, et dès qu'il cite quelqu'un au-dessus de ça, toute cette bande-là doit être poursuivie et traduite par la justice afin de se rendre compte qu'eux aussi ont participé à quoi? À cet acte de violence. C'est parmi ma préoccupation que j'avais vis-à-vis de ça.
Merci beaucoup, Maître Rufin Leco. Vous avez la parole.
Oui, évidemment, vous voyez, donc, on constate d'abord que le pays, notre pays, a été mis dans une situation il y a quelques années où la justice ne doit pas fonctionner. Donc, parce qu'on ne pouvait pas arriver à plus de 10 millions de morts et qu'il y a des auteurs qui circulent et qu'on ne sanctionne aucun.
Et qu'est-ce qui a paralysé la justice?
Donc, il y a eu des audios que les politiciens ont fuités qui ont révéler les intentions des politiques de mettre la main sur la justice.
Et ça, c'est de ça. Caporaliser comme certains
disaient. De caporaliser, donc, de militariser, donc, de rendre les magistrats des militants politiques. Mmh. Ça veut dire qui sont aux ordres. Lorsque la justice ne fait pas son travail, voilà l'effondrement de la sécurité à l'est du pays et dans d'autres provinces, notamment le Kassai, le Grand Kassai, le Bandundu, en ce qui concerne ces parties qui avaient été victimes de ces atrocités, les Bas-Congo, l'Équateur, avec les Zéniélé. Tout ça sont donc des arriérés d'impunité qui doivent être liquidés parce que ce sont des crimes contre l'humanité qui ont été commis partout là-bas. Alors, parce que tout simplement, lorsque la justice ne fait pas son travail, vous voyez, donc, l'un des auditeurs dénonce le fait que chez eux, ils n'ont pas de magistrats. Mmh. Il y a un pléthore scandaleux des magistrats à Kinshasa.
Qui ne veulent pas
La cour d'appel de Matete a plus de 100 juges. 100 juges. Donc, conseiller et président. Cour d'appel de Matete.
Alors qu'il y a des coins du pays.
Alors qu'il y a des cours d'appel qui n'ont même pas deux. La cour d'appel doit avoir au minimum, une cour d'appel doit avoir au minimum 9 magistrats. Au minimum. Mmh. Et si c'est beaucoup, 30, 40. Maintenant, il y a ceux qui ont plus de 100. Je cite la cour d'appel de Kinshasa Matete. Mmh. La cour d'appel de la Gombe a plus de 80 environ. Donc, c'est un pléthore absolu. Il y a même des tripés à Kinshasa, des tribunaux de paix.
De paix, oui.
Qui ont plus de 60 juges. C'est un scandale. Lorsqu'il y a des territoires qui n'ont même pas un juge. Donc, il faut que rapidement, parce que nous avons ces défauts-là au pays, que la plupart de nos magistrats veulent rester dans la capitale. Et ça, lorsque vous êtes un fonctionnaire de l'État, vous êtes un cadre de l'État, vous ne pouvez pas faire votre volonté.
L'État vous affecte là où il veut.
Non, mais l'État vous affecte là où vous êtes utile. Mmh. Là où vous êtes utile. Et ça, il faut que ce nez gordier-là, on puisse le démanteler. Donc, c'est cette contrebande des fonctionnaires de l'État, des cadres de l'État qu'on appelle les magistrats, qui ne veulent que rester dans la capitale.
Mais certains disent, comment je vais aller là-bas, au village, il n'y a pas de frais d'installation, il n'y a rien.
Non, mais cet argument-là, c'est un argument...
On ne le met pas dans les conditions...
Anachronique, non, attends. Parce que ceux qui partent, mmh, ils trouvent l'accueil. Il y a des services de l'État qui sont là à Vahé. Donc, c'est pas des magistrats qui viennent du ciel. Donc, c'est comme on dit, nous jugeons nos semblables. Lorsque vous dites que vous êtes magistrat, vous ne pouvez pas travailler dans ces conditions-là. Mais là, il y a un rédoc. Il y a un maire de la ville. Il y a un gouverneur aussi âgé de l'État comme toi. Donc, ça veut dire, et ils vivent. Ils sont là, ils vivent. Il y a des bâtiments. D'ailleurs, ici, nous logeons nos fonctionnaires dans des conditions lamentables parce qu'il n'y a pas, il n'y a plus de résidence officielle ici. Or, dans la plupart des provinces, le magistrat a des résidences officielles. Mmh. Donc, l'argument que non, il n'y a pas de conditions, vous voyez, c'est compliqué là-bas. C'est vrai, c'est vrai, dans une certaine mesure. Mais lorsque nous comparons par le fait qu'il y a d'autres hauts fonctionnaires de l'État
qui sont là-bas.
Qui sont là-bas. Donc, c'est pas l'enfer là-bas. C'est
vrai. Maître Ruffin, un instant. On va accueillir Maître Viviane Kitété, avocate au barreau de Matadi et défenseur des droits de l'homme. Maître Viviane, bonjour. Maître Viviane, vous êtes en ligne, bonjour.
Bonjour, messieurs les journalistes.
Bienvenue dans cette émission qui s'intéresse. Nous parlons de l'impunité en ce qui concerne les violences sexuelles. On a appris que beaucoup des gens qui étaient condamnés aujourd'hui sont aux affaires, dans l'armée, dans la politique, sont juste des certaines immunités. On ne sait pas les toucher. Alors, d'après vous, qu'est-ce qu'il faut faire pour mettre fin à l'impunité en ce qui concerne les violences sexuelles?
Merci beaucoup de la question, mais je pense que s'il y a des magistrats ou des gens qui ont reproche d'être à la base de l'impunité, c'est bien dommage. Moi, je dirais que c'est vrai qu'il y a des gens qui courent, qui sont des gens en liberté ou qui occupent des postes de commandement. Mais qu'à cela ne tienne, nous devons tous lutter contre l'impunité parce que c'est un mal qui ronge le pays. C'est au fait ce qui rend mal et les victimes, et nous défenseurs des droits de l'homme, et toute la population congolaise en soi. Donc nous devons tous mettre la main à la pâte. Et moi je pense que tout dépend de... On dit que l'exemple vient d'en haut. Si le chef de l'État est déterminé et qu'il a vraiment cette volonté politique d'éradiquer l'impunité dans les pays, c'est à lui que revient cette charge-là, d'être rigoureux et de prendre des mesures pour qu'on mette fin à l'impunité. Voilà ce que je dirais à ces propos-là. Donc l'exemple doit venir du chef de l'État, doit venir du sommet, pour que ça puisse se ramifier jusqu'à la base. Et là, on fera œuvre utile pour qu'il y ait plus impunité en cette matière-là, voilà.
Et par rapport aux magistrats qui sont beaucoup à Kinshasa, qui ne veulent pas aller dans les autres provinces où il y a des problèmes.
À ce point-là, je dirais que je ne partage pas assez ces points de vue-là. Parce qu'il y a des magistrats qui ont été à l'intérieur, qui ont travaillé, qui ont risqué leur vie. Et vous savez comment vous traitez les intérieurs de pays. Je crois que les gens pensent que Kinshasa, c'est ça le pays, ou Kinshasa, c'est ça la capitale. C'est ça l'image qu'ils ont. Alors qu'en province, il y a des provinces où moi je viens fraîchement du Sankuru. Qu'est-ce qu'il y a comme infrastructure là-bas? Mais il n'y en a pas. On crée des nouvelles provinces et il n'y a aucune infrastructure. Et vous voulez que les gens aillent s'exposer là-bas et pour qu'ils deviennent qui, pour qu'ils fassent quoi? Vous voyez un peu le parquet général de Boindé. Le procureur de la République lui-même n'a pas assez de dossiers. Et vous envoyez, vous affectez comme ça des hauts magistrats là-bas pour qu'ils fassent quoi? Hein, vous voyez un peu, je pense que pour envoyer les magistrats à l'intérieur, c'est vrai qu'il y a des provinces où il y a des minimums d'infrastructures, hein, mais il y a des provinces, surtout les nouvelles provinces que j'insiste là-dessus, il n'y a rien qui a été préparé en amont. On envoie là-bas, on veut que ce soit une province qui n'a même pas un cadre ou des infrastructures pour accueillir ne fût-ce que le gouvernorat. Et les gens là-bas, ils se débrouillent, vaille que vaille, et vous voulez que ces gens-là qui sont pris en charge par des particuliers, par des paisibles populations, puissent rendre des œuvres utiles ou puissent rendre justice en toute équité ou en toute transparence? Je ne pense pas. Moi, je pense qu'il faudrait, on incrimine souvent le magistrat à tort pour dire qu'ils ne veulent pas aller en province, mais quelle province? Hein, surtout les nouvelles provinces. Moi-même, je n'encourage pas ces gens-là.
C'est mais vrai mais que parce qu'il y a des dossiers. Est-ce que cela n'entretient pas l'impunité? Ben, on s'en tient aux conditions matérielles alors qu'il y a des dossiers qui traînent.
Mais non, mais ce sont les moyens. Parce que si le gouvernement, l'État congolais met du paquet, il y a des chambres foraines qui peuvent aller là-bas, il y a même des magistrats qui peuvent aller là-bas pour rendre justice. Moi, je pense que ce sont des responsabilités partagées, et du côté des magistrats et du côté de nos dirigeants. Ils doivent faire des choses de manière à rendre justice comme il se doit. Vous allez dans un pays où, prenez l'exemple de Lusambo, le chef-lieu de Sankuru. Vous ne savez pas atteindre le chef-lieu sans passer par des motos et des risques énormes. Et vous voulez que le magistrat aille s'exposer là-bas? Moi, je ne vois pas vraiment de très bon œil. On a toujours tendance à recourir aux partenaires. Mais que fait l'État congolais? Nous apprenons qu'il y a des gens qui construisent des maisons, des villas qu'on voit ici dans la ville. Et l'État congolais ne manque pas assez de moyens pour ne fût-ce que avoir l'infrastructure administrative. Ça ne peut pas manquer, c'est d'accord. Le minimum.
C'est le minimum. Oui, Maître voilà. Viviane Kitete, merci. Et excellente oui. Journée. On va donner la parole à Donna de Bukavu. Bonjour Donna.
Bonjour Jody, Daniel, très chèrement. Bonjour à tous les auditeurs de la radio Okapi.
Quelle est votre question par rapport à l'impunité dans le domaine des violences sexuelles?
Vraiment, concernant le sujet du jour, c'est un sujet intéressant et c'est un sujet pour donner nos avis au gouvernement congolais. Bon, je peux dire que vraiment notre état congolais est plus injuste que, en tout cas, le terme, plus que Satan. Parce que l'impunité de la violence sexuelle, la punition se fait ne fût-ce qu'à une personne masculine. Au moment que la loi promulguée selon la violence sexuelle, on peut punir de d'autres côtés. Il y a une fille aussi, quand ils savent que non, l'infraction de coucher avec un garçon, c'est une infraction. On peut punir l'homme et la femme. Deuxième chose, il y a beaucoup de familles qui prennent ces choses-là comme une marchandise. Souvent, on a toujours eu l'habitude, surtout ici chez nous à Bukavu, on a toujours, quand on a un garçon engrosse une fille, directement on part à la justice et on écrit tout simplement qu'il a violé. À ce moment-là. Voilà.
Donc ça devient un business pour certaines familles.
Oui, il traite avec la famille de la fille et on maltraite l'homme, le garçon, on lui dit de doter la fille, beaucoup de... et la fille reste chez elle. Pourquoi pas l'État aussi ne peut pas intervenir
pour punir la fille
qui a pris cette décision de faire vendre leur fille et aussi punir cette famille.
Merci. Safari, vous êtes à Iga Barrière. Bonjour. Safari de Iga Barrière.
Merci, monsieur Jody. Dans cette matière, je n'ai jamais vu chez nous quelqu'un condamné dans cette matière. Alors, la question que je pose...
Et pourquoi vous n'avez jamais vu quelqu'un... Oui? Pourquoi vous n'avez jamais vu un violeur être condamné là-bas à Iga Barrière?
On ne sait pas. Moi, je ne sais pas. Peut-être parce qu'il y a un manque de tribunal chez nous. Moi, je dirais ça. Alors... J'ai une question à me poser. La question s'adresse à M. Lévité qui est là. Cas exceptionnel peut être, malgré il n'y a pas de justice. Alors, si quelqu'un tombe réellement entre la main de justice et qu'il est réellement violé, ça lui est comme quelle peine? Voilà ma question et bonne journée.
Bien. Maître Louko.
Bon, s'il faut répondre directement à cet auteur, alors, dans les violences sexuelles, il y a plus de 16 infractions. Il y a le numéro 1, c'est le viol. Il y a l'attentat lapidaire comme violence sexuelle. Il y a le harcèlement sexuel. Il y a l'excitation des mineurs à la débauche. Il y a donc
il y a plusieurs, une toute panoplie. Une litanie,
voilà. Alors chaque infraction, monsieur l'auditeur, a une peine. Donc chaque crime a une peine. Mais en ce qui concerne le viol, il y va
20 ans de prison.
Il va de 5 à la peine de perpétuité. Par exemple, le viol qui a inoculé le VIH-Sida, vous passez toute votre vie en prison. Ou bien le viol qui a entraîné la mort de la victime. Donc, c'est plusieurs peines, mais le viol est parmi les infractions après l'assassinat et le meurtre, c'est parmi les infractions qui sont le plus punies par notre code pénal. Le viol, donc les violences sexuelles. Donc, la loi de 2006 a rehaussé ou bien à ramener vers la hausse la gravité. Mais nous aurions aimé, évidemment, pour déjà comme le compatriote qui dit que non, chez lui, il n'a jamais vu quelqu'un être condamné. Il fallait effectivement qu'il y ait des chambres spécialisées des violences sexuelles. Donc, tu vois, au sein de tous nos cours et tribunaux, qu'il y ait des chambres spécialisées, c'est-à-dire des juges spécialisés de violences sexuelles. Et ces juges-là, je dis, auraient eu la possibilité d'aller partout. C'est-à-dire, il est juge, par exemple, en province à Kisangani, et qu'il peut aller dans tout le réseau, parce qu'il y a une compétence qui lui permet d'aller partout où il y a violence sexuelle.
C'est ça.
Vous voyez, au lieu de localiser la compétence des juges de violence sexuelle, comme on n'a pas assez de magistrats. Donc, cette question-là, évidemment, c'est une question nationale. Lorsque je suis madame Kitete, qui est une grande activiste, l'épouse d'un haut magistrat de la République, et qui a servi dans plusieurs provinces, en passant par Beni, Bas-Congo et consorts, non?
Ils Congo savent, central, ouais.
Ils savent, ouais, Congo central. Ils savent la réalité, n'est-ce pas, de la sollicitation, de l'offre de la population en ce qui concerne les violences sexuelles. Donc, nous nous encourageons, parce que rappelez-vous que c'était sur ces antennes que nous avions dénoncé la décentralisation uniquement politicienne. Vous voyez, lorsqu'on a décentralisé, nous avions dénoncé l'absence de moyens. On ne peut pas quitter des 11 à 26 provinces et il n'y a pas une ligne budgétaire. Une ligne, ne fût-ce qu'une prévision budgétaire que non, voici les bâtisses. C'est pourquoi lorsqu'un politicien détourne 20 millions de dollars, 10 millions de dollars, il faut que la justice soit implacable. Parce que ce sont eux. Nous ne pouvons pas faire 60 ans d'indépendance et nous sommes incapables de construire un palais de justice. La plupart des palais de justice sont construits. Les nouveaux palais de justice et des prisons sont construits par la coopération avec l'Union européenne et d'autres pays.
Donc beaucoup de provinces là qui sont qui ont été créées
n'ont
rien.
N'ont même pas de gouvernorat. Sur cette question-là, l'auditeur a raison. Sur cette question-là, et le responsable c'est qui? C'est le dirigeant politique. Parce que figurez-vous, la justice qui est l'une des demandes principales de la population, la justice, avant même le social. Mais qu'est-ce qu'on y réserve? Qu'est-ce qu'on y réserve? En ce qui concerne l'érection des nouvelles bâtisses, c'est-à-dire des palais de justice. Lorsque vous voyez qu'un politicien a détourné de l'argent, il est parti pas acheter une maison, mais un hôtel. Il a acheté un hôtel. Mais cet argent-là aurait servi à construire 3, 4, 5 palais de justice. 3, 4, 5 prisons. Donc ça veut dire, en ce qui concerne les détournements, la corruption, la justice doit être implacable. Évidemment, pour que cette justice soit à mesure de rendre justice, s'il faut me répéter, il faut qu'elle soit dans de bonnes conditions. Mais nous, nous disons
ici... Qu'est-ce qui empêche l'organisation des chambres foraines? Bon, comme tout c'était ça, le cas, c'est par exemple, en 2003, à Songoboyo.
Voilà, Songoboyo,
du viol massif de Songoboyo.
Et à Kilwa, Kasenga et Konso. Je me rappelle, en Équateur, il y a eu des chambres foraines. T'as les chambres foraines coûtent cher que le juge de permanence, comment on dit le juge permanent, de carrière. Les chambres foraines, ça veut dire les déplacements du tribunal de son siège, disons Kinshasa,
pour venir,
le tribunal se déplace là où les faits se sont commis, disons à Kinkole ou bien à Maluku.
Oui.
C'est un cas, par exemple, nous sommes à Matadi, le tribunal se déplace, je me rappelle, la cour militaire avait quitté pour plusieurs infractions, a quitté Matadi pour aller rendre justice à Inkisi, en Banzangungu. La cour militaire quitte là-bas, donc se déplace. Vous déplacez donc.
Ça coûte cher.
Plus de 7 colonels. Avec leur garde du corps. C'est ça la justice, hein, parce que la justice militaire est composée.
C'est une logistique
importante.
Oui.
Donc ça coûte cher qu'avoir des magistrats qui soient en Banzangongo. En Banzangongo, il y a un tribunal militaire de garnison. Donc ça veut dire doter les magistrats qui sont affectés là-bas, non seulement un nombre de magistrats et de bâtisses, c'est moins cher que les chambres foraines. Vous voyez? C'est moins cher que les chambres foraines. C'est pourquoi nous considérons que c'est mieux pour lutter contre cette impunité béante qui fait que la guerre, les atrocités, le pillage ne se termineront jamais au pays. Parce que tout simplement, les autorités ne relèvent pas la tête pour qu'on arrêta et on jugea tous ceux qui sont présumés auteurs de ces infractions-là, nous allons continuer comme ça.
Maître Vivian dit que l'exemple doit partir d'en haut. Le président de la République doit.
Mais le président de la République a donné l'exemple. A nommé des nouveaux magistrats. Vous voyez, il a nommé un nouveau chef du parquet général, c'est-à-dire celui qui arrête les députés, les ministres et consorts. Il a nommé un nouveau chef à la haute cour militaire. Et c'est lui qui a été nommé, nous a quitté, il est décédé, nous on parlait tantôt. Donc, le chef de l'État a nommé de nouveaux animateurs.
Il a donné le go.
Il donne le go. Parce que les anciens n'ayant pas fait leur travail adéquatement, a nommé de nouveaux. C'est déjà Le premier gage, mais bon, je sais que nombreux ne sont pas en bonne santé, il semble, il y a beaucoup de problèmes, parce que les bourreaux, les criminels, ils sont vigilants sur toute personne qui arrive. On doit mettre les bâtons dans les roues pour que nous ne soyons pas athées.
Donc c'est tout. Ils savent comment neutraliser
par des pratiques magico-religieuses. Tout ça, ils ont beaucoup de moyens, vous voyez. Parce que tout simplement, ils savent.
Et par la corruption.
Et par toutes sortes de pratiques. Toutes sortes de pratiques. Vous voyez, donc, pour empêcher que la justice les atteigne. Mais comme l'a dit madame Kitete, nous devons tous nous mobiliser contre cet homme. Et ça, cette mobilisation, je dis, Radio Okapi, ici, c'est plus de 20 ans environ maintenant. Bon, je ne sais pas, nous avons fêté 19 ans.
Oui,
c'est plus de 15 ans d'élite pour pousser les pays et les institutions dans la répression des violences. C'est pourquoi, à cette occasion ici, coup de chapeau à tous les activistes et à notre prix Nobel en réclamant le tribunal pénal spécial sur la RDC.
Docteur Mukwege a réclamé, il a fait un plaidoyer, le chef de l'État
a répondu positivement. Il a été entendu notamment par l'Union européenne qui a donné le go en arrêtant Roger Lumbala.
Oui.
Celui-là, c'est un chef de guerre qui a plusieurs reproches qui sont, n'est-ce pas, imputés à sa tête, notamment nombreuses violences sexuelles. Et donc, le chef de l'État a reçu Mukwege et a soutenu Mukwege, nous tous comme nation, par rapport aux milliers de violences sexuelles. Vous savez que les tribunaux...
Mais qu'est-ce qu'il faut pour l'installation de ces tribunaux-là?
Mais c'est d'abord le moyen, la logistique, parce qu'il faut que la communauté nationale nous assiste. C'est pourquoi...
Ça demande beaucoup de moyens.
Ça demande, non, pas beaucoup de moyens, mais le tribunal spécial est pour la Sierra Leone.
Oui.
C'est-à-dire, par rapport à tout ce que nous dépensons, à tout ce que la communauté internationale, par exemple, en RDC, dépense 1 milliard de dollars par an. C'est beaucoup trop d'argent. Donc, un tribunal pénal spécial, notre tribunal pénal spécial, ne va pas prendre des prévenus qui sont en Australie. Nos prévenus sont à Goma, Kinshasa, ils sont dans la région de Grala.
On est arrivé à la fin de l'émission. En quelques mots, qu'est-ce qu'on peut retenir par rapport à l'impunité?
Alors, on doit retenir que l'impunité en RDC est à la base de la perpétuation de la crise et des atrocités à l'est du pays, à Yumbi hier, à Kananga avant-hier. Parce que tout simplement, les bourreaux ont une certaine complicité d'un certain nombre d'autorités pour qu'ils continuent à faire ce qu'ils vont. Vous ne pouvez pas imaginer qu'il y ait une rébellion qui a juste la mission de tuer des gens. Ils ne prennent pas de territoire, il ne faut rien d'autre.
Ils ne prennent pas les minéraux.
Ils ne prennent pas de minéraux, ils n'ont pas de revendications politiques.
Tuer
ils sont
seulement.
Là, tuer les gens, violer les gens. C'est depuis qu'il y a une rébellion comme ça. C'est depuis qu'il y a une... On appelle pareil rébellion ADF, NAL ou je ne sais pas quoi. Ce genre de rébellion... En principe, la répression aurait dû y mettre fait. Et nous ne savons pas comment notre armée a des officiers par-ci, par-là, dans ces coins-là qui ont fait 10 ans, 15 ans, et qui ne peuvent pas mettre fait à cette impunité qui fait que ça risque de tirer encore longtemps si nous ne relevons pas la tête.
Maître Erifan Luc Omousouba, juriste et chercheur en droit, merci.
Je vous en prie.
Enfin, cette émission de la vie au quotidien au Capi Service. Merci de nous avoir suivis. Restez branchés sur la fréquence de la paix et à la prochaine.